Dans le cadre d'Alès Bible 98, nous vous présentons la conférence qui a eu lieu le samedi 21 mars au Capitole à Alès. Cette conférence porte sur le thème suivant : les origines, mythes, sciences et Bible. Elle est animée par le professeur Henri Blocher, ancien doyen de la faculté de théologie protestante de Vaux-sur-Seine.
Henri Blocher a longtemps été doyen de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, à l'ouest de Paris. Et depuis la création de cette faculté, Henri Blocher a la chaire de théologie systématique. Il a enseigné également l'hébreu biblique, l'histoire de la philo et d'autres choses, peut-être. Il fait partie depuis 30 ans du comité de l'Alliance biblique française et a été pendant 8 ans vice-président de l'Alliance biblique universelle. Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages en français et en anglais. Il vient de me faire cadeau de son dernier ouvrage en anglais, j'en suis très reconnaissant, dont un ouvrage intitulé « Révélation des origines » où il analyse le sujet qu'il va développer maintenant.
Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de cette soirée pour l'invitation qui m'a été adressée. C'est avec beaucoup de joie que je m'adresse à vous ce soir et que je revois Alès. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à savoir que j'ai quelques souvenirs personnels qui remontent loin, ça ne me rajeunit pas, des souvenirs d'enfance qui sont liés à Alès. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père était prisonnier en Allemagne, prisonnier de guerre, et c'est à Vallon que ma mère, ma sœur et moi, nous avons vécu pendant toute la durée de la guerre, et je me rappelle que je faisais avec ma mère des visites à Alès. Nous prenions le car avec le gazogène à l'époque, quand il s'agissait de faire des courses qui n'étaient possibles que chez vous. Il y avait le prix unique, je crois. J'ai ce vague souvenir, un souvenir d'Alès. Alors, vous comprenez que je suis d'autant plus heureux de pouvoir être présent parmi vous ce soir et vous adresser la parole. Avant d'entamer l'exposé qui m'est demandé, je voudrais lire quelques lignes de l'Écriture sainte en guise d'épigraphe en quelque sorte, et aussi, comme on prend le « là » au diapason, quelques lignes de la Bible dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, les trois premiers versets qui parlent de la foi. La foi est assurance des choses qu'on espère, conviction des choses qu'on ne voit pas. Les anciens ont reçu le témoignage qu'ils l'avaient exercé. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de telle sorte que le visible ne provient pas de ce qui est apparent. Ces versets situent notre réflexion dans l'axe où elle doit se trouver. C'est par la foi que nous comprenons quelque chose au sujet qui nous est proposé. Ce sujet, cependant, n'intéresse pas les seuls croyants. La question des origines attire, intrigue, fascine, tourmente peut-être nombre de nos concitoyens quelle que soit leur orientation religieuse ou philosophique. Il n'est que de voir le succès des magazines à grand tirage qui mettent ce mot d'origine sur leur couverture pour comprendre que c'est un sujet qui se vend. Parce qu'il y a un intérêt qui n'est pas de curiosité seulement, un intérêt profond qui meut l'intelligence humaine vers la question des origines. Nous avons tous l'habitude, quand nous essayons de comprendre quelque chose aux petits événements de notre vie, de remonter des effets aux causes. Nous essayons de faire le trajet du temps qui a passé en sens inverse. Nous allons vers le commencement de toute affaire pour comprendre ce qui s'est passé et pour déterminer aussi ce qu'il convient de faire. Car c'est dans l'optique de l'origine, bien discernée, que le sens des choses se révèle. C'est pourquoi il est juste de s'interroger sur les origines de l'être humain, sur les origines de toute la réalité dont il est solidaire, l'origine du monde, lorsqu'on veut vivre sa vie intelligemment, lorsque l'on veut savoir pourquoi on est sur Terre. La constitution de l'humanité et de l'univers peut nous révéler ce qu'il en est de leur bien authentique, de leur finalité. Ainsi, l'intérêt qui de fait se manifeste pour la question des origines est un intérêt de droit. Nous faisons bien de nous demander ce qui s'est trouvé au commencement. Et à ce propos, je voudrais souligner deux points qui sont peut-être un peu accessoires, mais qui vont compléter mon introduction. Je voudrais souligner que lorsqu'on met l'accent sur l'avenir, ce qui est un trait de la modernité, il y a une valorisation de l'avenir, c'est dans l'absurde ou dans l'inane, le non-sens, que l'on tombe si l'on ne considère pas simultanément les origines. Que la fin d'une chose nous informe sur son sens, cela ne peut valoir que si cette fin est celle d'un dessein intelligent, que si cette fin correspond à la programmation de celui qui a suscité l'être en cause. Autrement, s'il s'agit simplement de l'avenir comme vide, dans un jeu de hasard, pourquoi est-ce que la fin aurait la moindre lumière à projeter sur un processus quelconque? S'il y a quelque continuité dans les enchaînements, il est juste de penser qu'en remontant ces enchaînements, on aura quelque information utile. Mais si tout est régi au bout du compte par des lois aveugles mêlées au hasard, la fin ne doit pas devenir comme un mot magique à propos du sens et de la véritable finalité des réalités de notre expérience. Ma deuxième remarque concernera une habitude de langage qu'ont contracté certains penseurs, certains théologiens même, avouons-le, récemment, et que je ne trouve pas très heureuse. Certains hésitent à parler de l'originel pour des raisons diverses, intimidés peut-être à l'idée qu'ils auraient à proférer des affirmations sur les origines, ne s'en sentant peut-être pas capables, Alors il substitue au mot originel le mot originaire, en disant, non, nous ne pouvons pas dire originel, mais originaire. La distinction entre les deux termes ne me semble pas soutenue par aucun dictionnaire. J'ai cherché pour vérifier. Et j'ai bien peur qu'il y ait comme une ombre de resquille en cette substitution. On veut garder le prestige et comme la promesse de sens qui s'attache au terme d'origine, mais comme on n'ose plus tout à fait affirmer quelque chose sur les origines, au sens ordinaire du terme, alors on glisse un autre terme qui en dérive sans se rendre responsable d'une affirmation sur le temps, sur les événements du commencement. Je suggère que cette substitution pourrait se comparer à l'effort que certains voudraient faire pour voler plus vite, de supprimer toute l'atmosphère. Puisque les avions sont retenus par le frottement de l'air, alors supprimons l'air pour qu'ils volent mieux. Vous savez bien entendu qu'ils tomberaient alors irrémédiablement. C'est parce que l'origine, comme commencement, est authentiquement clé du sens qu'il faut s'interroger sur l'originel. Alors l'intimidation, elle procède au moins en partie de l'existence de discours concurrents et dont certains paraissent redoutables, de discours concurrents sur les origines. En schématisant, il me semble qu'on peut dire qu'il y a trois grands discours qui prétendent nous instruire sur les origines qui comptent. Et ces trois discours, ils sont mentionnés dans le titre qui a été choisi par les organisateurs. Mythe, science et Bible. Et mon propos, c'est maintenant de comparer, en insistant sur la Bible, puisque c'est dans la préparation d'une exposition biblique, et puis c'est aussi ma partie. C'est à propos de la Bible que j'ai quelque chose de plus substantiel à dire. Mais je voudrais commencer par évoquer la physionomie de ces trois grands discours, et puis ensuite parler du rapport entre mythe et Bible, science et Bible. Le mythe a constitué la première réponse des humains à la question des origines. Cette question ne se pose pas seulement aujourd'hui. Ce que j'en ai dit implique une importance humaine à travers tous les temps, et on constate que les civilisations les plus anciennes que nous connaissions ont cherché à répondre à la question des origines. Elles l'ont fait en racontant des mythes. Alors pendant tout un temps, on se faisait du mythe une idée simpliste et péjorative. Le mythe, en fait, pensait-on, c'était l'époque du rationalisme triomphant, ce n'était qu'un essai puéril de science avant que l'homme ait les moyens de la science. C'était une explication indigente et naïve des phénomènes naturels dont la science, en paraissant, chasse les brumes sans aucun reste à en préserver. Mais les recherches plus récentes, celles qui caractérisent davantage notre siècle, ont valorisé le mythe, ont fait apparaître que le mythe est bien plus qu'une explication pseudo-scientifique de quelques phénomènes naturels. Le mythe, c'est une formule d'habitation du monde. C'est un schème englobant et directeur qui donne à l'homme des repères dans sa réalité, qui lui permet de vivre dans ce qui autrement serait invivable, ne serait qu'un tourbillon chaotique mortel. Le mythe, c'était une structure de mise en ordre, par quoi le chaos devient un cosmos, c'est-à-dire un tout ordonné, où il est possible de vivre, où les relations avec les puissances mystérieuses du sacré peuvent être stabilisées, où le sacré est conjuré dans l'intensité de ces énergies terrifiantes, et où il est canalisé pour servir à la vie humaine. Le mythe est toute une représentation de la réalité, il fournit des points de repère, il est aussi le moyen d'intégrer, nous disent les spécialistes, les grands antagonismes. On l'a représenté comme un grand outil de compréhension, c'est-à-dire de prise ensemble. C'est ce que veut dire le terme des grandes oppositions, et tout spécialement de la vie et de la mort, du bien et du mal. Le mythe donne la formule de leur coexistence, puisque l'expérience humaine rencontre les termes opposés. Le mythe est en même temps indissociable du rite. Le mythe est comme un geste de stabilisation du monde qui se traduit en geste dans le culte. Le mythe est dit dans le rite, qui est comme le mythe en acte. Le mythe étant comme le rite raconté. Et parmi tous les mythes, nous disent les spécialistes, là je pense tout spécialement à l'auteur qui m'a le plus influencé, sans doute, il y en a peut-être 3 ou 4 qui m'ont vivement influencé sur cette question, le savant roumain d'origine Mircea Eliade, qui est vraiment un des très grands penseurs de notre siècle. Ce Mircea Eliade avait commencé, jeune surdoué, à Bucarest. Il avait écrit aussi des romans. Et c'était un intellectuel très brillant. Puis les circonstances ont fait qu'il a émigré à Paris et il a fait une carrière française, écrivant plusieurs ouvrages en français, enseignant à Paris. Et puis il a de nouveau émigré et il s'est retrouvé à Chicago et il a fait une 3e carrière américaine, écrivant en anglais et exerçant une influence très considérable. C'est vous dire un petit peu la taille du bonhomme. Et Eliade a souligné ce qu'il a appelé le prestige du mythe cosmogonique. Les mythes racontent en général des commencements, mais ils peuvent s'attacher au commencement de telle ou telle coutume. Il peut y avoir des mythes qui se rapportent à des secteurs particuliers de la vie humaine. Mais parmi tous les mythes, dans toutes les populations qu'Eliade a pu étudier, le mythe qui raconte la naissance de l'univers, le mythe cosmogonique et de l'humanité, est le mythe par excellence, celui à partir duquel toute la vision du réel s'organise. Le mythe ancien a-t-il disparu? Je ne vais pas tenter de creuser la question, nous pourrons peut-être en reparler dans le moment d'échange que nous aurons. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que beaucoup de philosophies laissent voir leur détermination sous-jacente, en quelque sorte, par les vieux mythes de la culture, et que certaines représentations très efficaces dans notre vie culturelle s'apparente elles aussi, sans qu'on ose les appeler des mythes, à ces mythes, à ces grandes structures déterminantes pour la vision et pour l'action. Tel est le premier discours ou grand type de discours sur les origines. Le deuxième, c'est celui que nous appelons le discours scientifique, le discours très lié à l'essor de cette façon d'appréhender le réel, caractéristique de notre modernité, depuis la Renaissance en gros, qui s'efforce à l'objectivité, qui s'efforce à la cohérence systématique, à la mise en œuvre de principes impersonnels. Il ne s'agira plus d'expliquer les choses par les humeurs de telle ou telle divinité, mais de trouver des principes de type impersonnel, et avec une méthode où l'expérimentation joue un rôle clé. Il ne fait pas de doute que cette forme particulière d'élaboration du savoir humain a connu un développement fantastique en quelques siècles. C'est probablement ce qui distingue le plus notre civilisation des autres civilisations qui ont existé sur la Terre, avec une efficacité quant à la maîtrise du monde sous la forme de la technologie issue de la science appliquée. Il est si remarquable et indubitable que la science a connu un développement prodigieux et des succès énormes, que beaucoup de nos contemporains lui mettent une majuscule. Je me rappelle François Châtelet disant que pour pratiquement tous nos contemporains, la voie, la vérité, la vie, c'est la science. Il reprenait la triade de termes que l'on trouve dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, où le Christ dit « Je suis la voie, le chemin, la vérité, la vie ». Et François Châtelet, donc ce philosophe, disait « Pour nos contemporains, c'est la science. Si c'est pas scientifique, suspect. Si c'est scientifique, le discours que tient la communauté scientifique s'intéressant à la question des origines est le deuxième grand discours qui sollicite les suffrages, qui exerce de l'influence aujourd'hui. Alors comment se caractérise-t-il? Je schématise bien entendu. Et de toute façon, sur ces questions, je ne suis qu'un amateur. J'ai fait un certain nombre de lectures, mais je ne veux pas prétendre à autre chose qu'à ce que je suis. Le premier trait du discours sur les origines que notre science actuelle montre, c'est précisément que c'est un discours sur les origines. Longtemps, alors là je parle de la science des Grecs, mais aussi des tendances de la science moderne, la faveur allait à l'idée d'un monde éternel. L'idée que le monde est une origine, au sens simple que j'ai dit tout à l'heure du mot origine, a dû faire sa percée, a dû s'imposer malgré des résistances au cours de notre siècle. C'est le modèle dit de Gamow ou du Big Bang. Ça n'allait pas de soi il y a encore un siècle pour beaucoup de scientifiques. Ils préféraient penser à l'éternité de la matière et de l'univers, mais il a fallu, pour rendre compte des phénomènes, supposer un commencement. Alors, la science ne peut pas dire si c'est un commencement absolu, mais c'est un commencement de notre univers. Il y a une quinzaine de milliards d'années. Un événement presque indicible, 100 milliards de degrés, tout un centième de seconde, enfin, la naissance de l'univers. C'est en accord d'ailleurs avec un principe qui est souvent mis en valeur, second principe de la thermodynamique, le principe dit de l'entropie, que cette orientation temporelle avec un commencement pour notre univers peut être affirmée. L'entropie, c'est la loi de la dégradation de l'énergie. Cela veut dire que le désordre gagne. On pourrait dire que c'est la vérité que connaissent bien tous les jardiniers du samedi ou du dimanche, que les mauvaises herbes poussent plus facilement que ce que l'on a planté. Il y a tendance au désordre, ce qui implique dégradation de l'énergie. Parce que pour qu'il y ait de l'ordre, il faut de l'énergie. Il faut mettre de l'énergie pour ranger sa chambre. Il faut mettre de l'énergie pour que l'univers soit ordonné. Mais en fonctionnant, le monde dégrade son énergie en chaleur. Et l'entropie, c'est la loi d'une dégradation continue vers une chaleur qui, il ne faut pas se faire d'illusions, ce sera de 2 ou 3 degrés au-dessus du zéro absolu au terme du processus. Mais c'est la loi d'une dégradation vers une désorganisation à peine tiède. Cela veut dire un caractère vectoriel, orienté. Le temps est une flèche. Et cela aussi appartient à la vision que la science contemporaine nous propose de l'univers. Elle confirme l'assignation d'une origine, le fameux Big Bang. Alors, je passe sur la manière dont l'univers, à partir de cet état de surfusion des premiers instants, se refroidit peu à peu en se diffusant et s'organise pour arriver à la constitution de la Terre. C'est quand même elle qui nous intéresse, notre fameuse planète bleue. Il y a 4 milliards et demi d'années. Et sur la Terre, 3 milliards à peu près, les premières formes de vie. On n'en a pas retrouvé ailleurs pour l'instant. En tout cas, sur la Terre, première bactérie, première forme de vie dont on a quelques traces fossilisées. Et à partir de là, comme une lente marée qui monte, production de nouvelles formes de vie, souvent plus complexes, plus riches, et finalement un foisonnement d'espèces vivantes, végétales, animales, selon la théorie prédominante, qui est celle de l'évolution des espèces, où on dit encore transformisme. Selon cette conception, qui est la conception dominante parmi les savants qui sont reconnus dans les universités, dans les instances scientifiques internationales, donc la diversité des espèces vivantes et leurs caractéristiques sont issues d'un processus de transformation. Les espèces sont déduites en quelque sorte les unes des autres. Il y a une généalogie commune entre elles toutes. Et selon l'un des rameaux de cette évolution, dans le rameau des primates, vous le savez, est apparu un trait tellement différent de ce qui se trouvait ailleurs que l'on a considéré qu'un nouveau pas décisif était franchi dans cette montée de la vie, que l'on passait du vivant au conscient et au réfléchi, c'est le pas de l'hominisation. L'homme surgit par processus évolutif, comme on surgit toutes les espèces, mais avec une telle nouveauté que c'est un nouveau règne après le règne animal qu'il inaugure. Alors les premières formes qui sont baptisées homo dans la nomenclature des scientifiques, elles remontent à plusieurs millions d'années. Avec l'homo habilis, les homos qui sont non pas encore des hommes selon nos références d'humanité, pas encore homo sapiens, mais homo déjà, homo habilis, c'est-à-dire homme capable. Et puis, il y a un million et demi, une forme qui se rapproche déjà davantage de la forme de l'homme actuel, homo erectus, avec le synanthrope, par exemple, qu'avait découvert Teilhard de Chardin en Chine. Et puis, alors, plus près de nous, mais encore quand même assez loin, un rameau qui reçoit le nom d'homo sapiens, avec deux branchettes, pourrait-on dire, celle de l'humanité de Néandertal, l'homo sapiens neandertalensis, et puis alors l'homo sapiens sapiens, qui, même s'il a vécu il y a 40 000 ans, ne se distinguerait pas, rasé et cravaté, de n'importe qui dans l'autobus. C'est vraiment là l'humanité présente. Alors il y a quelques années encore, on donnait comme date d'origine de la population sapiens sapiens environ au moins 40 000, et dans l'appendice du livre qui a été cité tout à l'heure, où je traite ces questions, j'acceptais cette thèse, puisque moi je me mets à l'écoute simplement des savants reconnus qui écrivent. Mais il semble qu'aujourd'hui on remonte nettement plus haut la date de l'origine de ce rameau sapiens sapiens, qu'on aille jusqu'à 100 000 ans pour ses tout premiers débuts. Il faut dire que toutes ces datations restent assez nettement conjecturales, que quelques années suffisent pour que des schémas qui étaient très largement admis soient remis en cause. Alors la tendance a été plutôt de remonter les dates ces derniers temps et de présenter des hommes anciens comme beaucoup plus proches de nous, au moins par l'apparence, qu'on ne l'avait imaginé quelques temps plus tôt. Mais rien ne dit malgré tout, rien ne garantit en tout cas que d'autres renversements en des sens divers ne puissent se produire. Le travail est un travail de Sherlock Holmes. Il s'agit sur la base d'indices simplement, alors d'indices qui sont parfois minuscules, dont il est vrai, l'accumulation permet par recoupement d'obtenir quand même des renseignements assez fiables, mais il s'agit sur la base d'indices de reconstruire un passé comme le détective reconstruit ce qui a dû se passer sur la base de ce qu'il a relevé, des empreintes. Et bien entendu, il n'y a pas de vérification qui puisse fermer la bouche à toute contestation en pareille affaire. On peut signaler que si le discours scientifique dominant est celui que je viens de résumer, j'espère sans trop trahir, il y a peut-être des professeurs de sciences naturelles ou d'autres scientifiques parmi vous qui me corrigeront ou me nuanceront, mais j'espère n'avoir pas, dans le temps bref que nous sommes contentés pour ce résumé, avoir trop déformé. Il faut ajouter que si c'est le discours dominant, ce n'est pas le discours unique. qu'il y a d'abord des gens qui continuent d'être mal à l'aise à l'idée d'une origine pour l'univers. Et l'idée d'un mouvement oscillatoire, par exemple, demeure une idée envisagée par certains au moins. Stephen Hawking, dans sa brève histoire du temps, qui a été l'un des principaux promoteurs du modèle du Big Bang, du modèle de Gamow, dit dans ce petit livre que je viens de citer, qu'il voudrait revoir un peu la question. Il revient quelque peu de son adhésion à ce modèle. Il se demande s'il ne peut quand même pas concevoir autre chose. Donc il y a des éléments de débat, d'incertitude qui continuent à propos de cet aspect-là. En ce qui concerne la théorie de l'évolution, théorie régnante, indépendamment des réactions de certains croyants chrétiens, dont je parlerai encore un peu tout à l'heure, il faut savoir qu'il y a des contestataires dans les rangs scientifiques, et qui sont contestataires parce qu'ils estiment que les preuves administrées ne suffisent pas, qu'il y a des vices de méthode qui rendent la théorie régnante peu probable. Il y a une vieille tradition, il y a eu pratiquement à chaque génération des gens pour contester la thèse évolutionniste. En France, il y a eu Vialton, il y a eu le professeur Bounour de Strasbourg, de Servier, de Montpellier, et récemment un biologiste moléculaire australien, Michael Denton, a écrit un livre très percutant, c'est de loin ce que j'ai lu de plus efficace dans la critique de l'évolutionnisme, L'évolution, une théorie en crise. Et ce livre, traduit en français, a eu les honneurs de la collection Champ Flammarion. C'est une collection, c'est là aussi où se trouve le petit livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. C'est une collection dont les responsables sont, je crois, prudents, ne publient que des scientifiques assez reconnus, que des ouvrages qui ne peuvent pas être simplement rejetés pour incompétence. Ce livre de Denton est dévastateur pour la théorie évolutionniste. Il y a eu des réactions très fortes. Marcel Blanc, par exemple, dans un ouvrage, accuse Denton de créationnisme. Il l'accuse, au fond, d'attaquer l'évolution parce qu'il serait un croyant lisant la Bible de manière extrêmement littérale et refusant l'idée d'évolution pour cette raison-là. Mais c'est faux. Denton, apparemment, n'est pas un croyant. Je suis allé à Sydney il y a 2 ans et je me suis un peu enquis puisque c'est dans cette ville qu'il enseigne. Non, apparemment, il ne fait pas profession de foi chrétienne. Mais il juge en scientifique que la théorie de l'évolution n'est pas tenable aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faille se ranger à son avis, mais je signale l'existence donc d'autres voies qui sont à coup sûr minoritaires dans le champ même du discours scientifique. Le troisième discours, alors, c'est celui de la Bible, qui se trouve en divers passages. Ce n'est pas seulement au début de la Genèse qu'il est question des origines. Il y a des passages extrêmement impressionnants dans des livres poétiques de l'Ancien Testament, dans le livre de Job, par exemple, ou encore quelques psaumes. Le psaume 104 est un psaume très riche sur le sujet de la création. Mais il est sûr que le début de la Genèse, et ce n'est pas pour rien qu'on a donné à ces chapitres cette place d'honneur dans le canon. Le canon, c'est aussi une disposition des Écritures qui est porteuse de sens, qui est une instruction précieuse pour le lecteur. Ce n'est pas par hasard qu'on a mis les premiers chapitres de la Genèse, là, au tout début de la Bible, constituant le fondement de l'Écriture sainte, comme disait Luther. Et c'est surtout donc vers la Genèse que l'on se tourne. Que dit la Bible des origines? La Bible dit d'abord, elle aussi, qu'il y a une origine. Elle ne semble pas considérer comme envisageable un monde éternel. C'est une histoire qu'elle nous raconte à propos du monde. Et son premier mot, c'est celui de commencement. Bereshit, au commencement ou au principe. Vous ne l'ignorez pas. Elle nous dit ensuite que ce commencement, ce fut la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, une expression double qui sert dans tout l'Ancien Testament plutôt que le mot d'univers. Il n'y a pas vraiment un mot pour l'univers ou le cosmos, il y a un mot pour la terre habitée, mais c'est une expression double qui caractérise le langage de l'Ancien Testament, les cieux et la terre, la terre et le ciel. Mais dans le premier verset de la Bible, donc, c'est les cieux et la terre. Alors, cette notion de création est très intéressante à relever. Je crois qu'on a eu raison de dire qu'en toute rigueur, elle est originale, que c'est la Bible qui l'a introduite. Certes, le mot peut se trouver dans nos traductions d'autres textes, de certains mythes des nations. Mais la notion biblique de création, qui s'attache à un usage très parcimonieux du terme hébraïque, est originale. Elle implique un commencement qui institue un rapport dissymétrique. Tout est de Dieu. Tout est de lui, par lui, pour lui, souligne la Bible très souvent. On ne commence pas avec plusieurs principes qui vont jouer ensemble, une matière préexistante qui aurait finalement un statut quasiment éternel et qu'un autre principe aurait essayé de transformer. Au commencement, Dieu. Et c'est de Dieu que surgit tout ce qui va se distinguer de Dieu. Une seule origine, Dieu, et une dualité dissymétrique. Dieu demeure distinct de sa création. Dieu demeure toute plénitude en lui-même. C'est pas comme un débordement de sa plénitude qu'il crée. Et le monde, totalement dépendant de lui. Dieu n'a pas besoin des mains humaines qui le servent, n'a besoin de rien. Il le dit aussi dans un psaume, mais si j'avais faim, tous les troupeaux de la montagne sont à moi. Dieu n'a pas besoin du monde, et le monde dépend radicalement de Dieu. Et à tout moment, la notion de création est solidaire du monothéisme qu'enseigne ce début de la Genèse. Un seul Dieu, l'unique source de tout ce qui est, et cela par une démarche délibérée de libre vouloir de sa part qui crée ce rapport étonnant. Il ne dépend pas du monde, le monde dépend entièrement de lui. Claude Tresmontant, qui enseignait en Sorbonne, dit que comme Abraham a quitté sa famille et sa patrie, par ce premier verset de la Bible, la métaphysique de la Bible quitte la métaphysique des nations. La Bible nous rapporte ce qu'il en est de cette création dans une fresque panoramique, en nous parlant de 6 jours qui se concluent par un 7e jour, de repos et de sanctification du temps par Dieu. C'est un texte qui a des résonances poétiques tout en étant de prose malgré tout. C'est une prose poétique, on dit de nombreux spécialistes, avec beaucoup de répétitions, avec une sobre majesté, un très grand dépouillement, avec aussi un raffinement extraordinaire dans la composition. Cela, peu de gens le voient quand ils lisent comme ça. Mais les chiffres symboliques, de valeur symbolique, ils sont impliqués. Il y a 10 fois Dieu dit. C'est un décalogue. Dans ce 10 fois Dieu dit, il y a 3 ordres avec le verbe être pour les créatures célestes et 7 ordres qui concernent des créatures terrestres qui n'emploient pas le verbe être. Il y a plusieurs séries de 7. Il y a 7 fois Dieu vit que c'était bon, ou bon, on pourrait aussi rendre beau. Indépendamment de la série des 7 jours. Il y a même un compte des mots. En fait, le nombre total des mots de ce que j'appelle la première tablette, Genèse 1, 1 à Genèse 2, 3, est un multiple de 7. En fait, il y a 3 fois 3, 7 fois 7 mots dans le texte hébraïque de ce début de la Genèse. Avec le premier morceau et le dernier morceau, aussi un nombre de septaines, d'heptades déterminés. Alors je ne suis pas du tout en train de glisser du côté des codes secrets de certains journalistes en barre de mal de sensation. Je dénonce comme une supercherie fort dangereuse parce qu'elle alimente comme une mentalité superstitieuse, ce qui se trouve dans le livre de Michael Drosnin. Je ne l'ai pas étudié directement moi-même, mais mon collègue et le président doyen de notre faculté l'a fait. Nous allons publier rapidement un article de lui sur le sujet. Ne vous laissez pas impressionner, moins du monde, par ce livre sur le prétendu code secret de la Bible. Les harmonies numériques dont je vous parle, ce sont des harmonies qui prennent le texte tel qu'il est, qui n'ont pas besoin de le triturer, de le mettre sur ordinateur. Vous comptez simplement le nombre de mots, dans l'original bien entendu. Et il s'agit, pour moi, non pas d'un phénomène mystérieux, mais d'une intention délibérée de l'auteur inspiré par Dieu. Les auteurs de l'Antiquité avaient le temps de ciseler leurs textes. Pour toute une vie, ils produisaient peut-être l'équivalent de 100 ou 200 pages de nos livres d'aujourd'hui en quantité. Ils n'avaient pas les moyens d'une quantité semblable à celle de nos publications. Et du coup, ils avaient le temps de polir, d'insérer des fignolages que l'on découvre quand on étudie de façon très, très attentive. Donc, un texte extrêmement travaillé. Le texte qui suit, chapitres 2 et 3, est un texte qui lui aussi est travaillé, surtout sur le mode de jeu de mots, et aussi dans une grande symétrie qu'on peut y voir. Le récit de ce qui s'est passé en Éden. Et on peut d'ailleurs continuer certains comptes de noms. Le nom de Dieu se trouve 70 fois dans les 4 premiers chapitres de la Genèse. 40 fois Elohim, Dieu. 20 fois Yahvé Elohim, l'éternel Dieu. Et 10 fois Yahvé, l'éternel, tout seul. Ça n'arrive pas par hasard. C'est une rédaction très, très fine et réfléchie. Et dans les chapitres 2 et 3, de nombreux jeux de mots sont là aussi pour montrer que s'il y a reprise
d'un matériel traditionnel, sans doute ce qui se racontait déjà dans les générations qui avaient précédé. C'est avec beaucoup de maturité, de réflexion, tout en finesse, que l'opération est faite. Il y a un jeu de mots entre arôme nu, arôme rusé pour le serpent, et arour maudit pour le serpent. C'est l'un des jeux de mots que l'on trouve dans ce deuxième passage de la Genèse. L'intention du texte est certainement d'abord d'instaurer cette notion de création que j'ai essayé de circonscrire il y a quelques instants, et ensuite de présenter l'homme comme la créature de dilection et d'élection de Dieu, l'homme créé en image de Dieu. C'est la construction d'un temple que la construction de l'univers. Et Dieu place dans le temple son image, l'homme créé en image de Dieu, homme et femme. Et cet accent est certainement un accent décisif. Il y a encore les thèmes de l'ordre de la vie, et dans l'articulation de la première tablette et de la deuxième tablette, comme le commentateur juif Umberto Casuto l'a fait ressortir, il y a le grand message, peut-être, bon, sinon l'un des grands messages de ce début de la Genèse, qui distingue le mal et l'être, la création et le surgissement du mal, qui nous est raconté au chapitre 3. J'anticipe peut-être sur ce que je vais dire dans un instant à propos du rapport entre la Genèse et le mythe, mais voilà une originalité radicale du texte biblique. Au lieu d'essayer d'intégrer dans une synthèse symétrique, dans ces jeux d'opposition que s'est joué le mythe, la vie et la mort, le bien et le mal, le texte de la Bible nous propose au contraire de disjoindre. Dieu crée, il vit que bon, il vit que bon, il vit que bon, et au terme de son œuvre, il vit que cela était très bon, ou bon à l'extrême. Et puis, l'histoire commence, et comme un surgissement étranger, le mal, avec la mort pour cortège. Voilà quelques mots. Oui, je vois qu'il faut quand même que je n'en dise pas tellement plus, pour que nous ayons le temps des échanges, sur la physionomie des trois grands discours. Alors, je pense que nous sommes prêts maintenant à considérer le rapport entre le mythe et la Bible. Il est très courant d'assimiler le début de la Genèse à la catégorie du mythe. Bien que ceux qui le font montrent en général quelques scrupules et disent c'est un mythe brisé, c'est un mythe historicisé, ils continuent à classer le récit de la Bible du même côté que les mythes. Il y a certes des points de contact, des éléments de symbolisme qui sont mis en jeu dans les mythes, ceux du Moyen-Orient ancien en particulier, que l'on retrouve dans le texte de la Genèse. La figure du serpent, par exemple, est une figure extrêmement fréquente dans les mythologies. Le serpent est une figure sacrée qui joue un grand rôle dans les religions et les sagesses du Moyen-Orient ancien. Un arbre qui communique la vie par son fruit aussi, par exemple, une plante, un arbre de vie. Mais si l'on compare de nombreux spécialistes l'ont fait. Les mythes des nations et les récits du début de la Genèse, je crois qu'on doit reconnaître que les contrastes l'emportent de très loin sur les points de similitude qu'on peut aussi relever. Et cela, des observateurs de très, très grand renom l'ont remarqué. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Le mythe s'impose avec sa majesté pour faire taire toute discussion. Il séduit, il charme. C'est comme une vapeur capiteuse qu'il répand. Mais il essaie d'induire une sorte d'adhésion indolore. Il ne réclame pas de décision. Alors que le récit biblique conduit, comme la suite du texte le montre très bien, à la décision. Il met en scène la décision. L'arbre de vie peut se comparer aux arbres de vie, plantes de vie qu'on trouve ailleurs. Mais ce qui caractérise le texte de la Genèse, c'est qu'il n'y a pas un arbre, mais deux. Et l'arbre de la connaissance du bien et mal, que j'interprète avec beaucoup d'autres comme la maîtrise des secrets, l'autonomie, prérogative divine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne se retrouve pas dans les mythes. Et l'antithèse des deux arbres et le drame du choix entre les deux, cela est absolument original dans la perspective de la Bible. Les mythes que l'on connaît sont polythéistes. Les mythes que l'on connaît, justement, ignorent la vraie création. Ils mélangent le divin et l'humain. Je me suis laissé dire que c'est comme un fondu enchaîné où on a la théogonie, puis la cosmogonie. Et l'anthropogonie, si vous voulez continuer. La théogonie, les dieux s'engendrent, se fabriquent, et puis, dans le prolongement, le monde, et il y a comme une seule coulée qui est divino-cosmique. Et l'homme, dans l'Enuma Elish, l'épopée babylonienne par exemple, est formé avec le sang d'un dieu, un dieu maudit d'ailleurs, c'est ce qui implique le mal dans son être même. On perçoit, quand on lit les deux types de littérature, le contraste radical. Et s'il y a des points de contact, il me semble qu'il faut les interpréter principalement selon deux lignes, comme une riposte, il y a un aspect polémique de réplique au mythe dans le texte du début de la Genèse, qui vient d'ailleurs chronologiquement après le temps des grands mythes cosmogoniques que l'on connaît du Moyen-Orient ancien. Enuma Elish est bien antérieure à Moïse, par exemple. Et elle est elle-même une réélaboration de l'épopée d'Atraasis. Donc, il y a réplique, je pense, polémique. Certains ont vu un élément de polémique, c'est possible, dans le fait que le soleil et la lune ne sont même pas nommés, eux qui étaient divinisés par les païens, mais sont appelés le grand et le petit luminaire, réduits à leur fonctionnalité, en quelque sorte. Et puis d'autre part, je pense qu'on peut dire que le récit ne se veut pas, comme tous ces jeux de mots, comme sa composition très savante le montre, un simple reportage, mais utilise un langage qui fera apparaître la portée des événements qui sont racontés. Donc un revêtement symbolique, comme dans certaines paraboles de Jésus ou comme dans certains grands tableaux de l'Apocalypse, qui est tisser avec le récit de ce qui est arrivé. Ainsi, il y a un certain rapport, mais ce n'est pas un rapport qui autorise authentiquement à ranger la Bible, le début de la Genèse, dans la catégorie des mythes. Le grand théologien protestant Karl Barth disait, parler de mythe de création, c'est une contradictio in adjecto. En fait, on met ensemble deux mots qui se contredisent. Un mythe dans son essence, dans son geste fondamental, capture le divin, le pense avec le cosmos et l'inclut dans ce jeu des oppositions que j'évoquais tout à l'heure. Or, la création que proclame le début de la Genèse est précisément ce qui s'oppose radicalement à une telle manœuvre. On pourrait aussi signaler, mais là je me borne à le mentionner, qu'on a relevé dans le récit des chapitres 2 et 3 de la Genèse, et puis les traits caractéristiques de l'histoire. Le père Gibert des facultés catholiques de Lyon a relevé les trois traits caractéristiques de ce qui diffère dans l'histoire par rapport au mythe. Dans le début de la Genèse. Nous pourrons éventuellement développer quels sont ces trois tout à l'heure, mais j'espère que vous m'accorderez là au moins le bénéfice du doute et que vous serez prêt à dire qu'il serait tout à fait hâtif et même peut-être violent de ranger le texte de la Genèse parmi les mythes des nations. Alors, il faut comparer encore au grand discours scientifique qui est revêtu d'un tel prestige parmi nos contemporains. De nouveau, il y a un préjugé qui est extrêmement répandu, qui est celui d'un conflit. Pour bien des gens qui n'ont même pas lu le début de la Bible, ça va de soi, d'un conflit entre le texte de la Genèse et ce qu'on peut scientifiquement dire des origines du monde. Ce conflit est aussi parfois supposé par des croyants, non pas tant par rapport à la théorie du Big Bang et encore, mais surtout par rapport à la théorie de l'évolution. D'Amérique nous arrivent facilement les échos du combat de ceux qui se baptisent créationnistes et qui ont élaboré ces 30, presque 40 dernières années, une science de substitution qu'ils croient plus fidèle à la Bible et qui s'oppose de manière entière au discours scientifique dominant évolutionniste. Cette thèse, je l'ai dans mon livre appelée anti-scientiste, mais ça n'a pas plu à ceux qui aiment mieux s'appeler créationniste. Alors il vaut mieux peut-être mieux que je n'emploie plus cette épithète. Il est bien entendu que le mot créationniste, d'après sa construction, son étymologie, ce mot créationniste devrait pouvoir s'appliquer à tous les croyants qui professent la foi biblique, qui disent au commencement Dieu créa. Je suis créationniste dans ce sens-là. Mais donc une école particulière, une tendance particulière qui a fleuri essentiellement aux États-Unis, prend le mot de créationniste pour en faire l'étiquette particulière qu'elle revendique. Et cette thèse implique les éléments suivants. D'abord, en tout cas pour la plupart, une jeune terre et un jeune univers. Les datations couramment admises par la science majoritaire sont dénoncées comme fausses, manquant de véritables justifications, et on nous parle d'un univers qui n'aurait qu'une dizaine de milliers d'années. Alors, à l'échelle d'une vie humaine, ce n'est déjà pas si court que ça, mais pour l'univers, c'est une fraction de seconde. Cette thèse, donc, d'une jeune Terre est maintenue, il faut le dire, par des gens qui ont des doctorats, des maîtrises dans des disciplines scientifiques. Et non pas simplement une poignée, ils sont quelques centaines à appartenir aux associations concernées. Et puis ensuite, alors, toute idée d'explication de la diversité du vivant par des processus de transformisme, de transformation évolutive, se trouve exclue. Elle se trouve exclue aussi parce qu'on n'a plus le temps avec un univers si jeune. Et du coup, tout est rapporté à une création spéciale par Dieu qui a créé chaque espèce distinctement par une intervention en quelque sorte verticale au cours d'une semaine de jours littéraux, de jours qui ont la durée de nos jours ordinaires, comme le dit le premier chapitre de la Genèse et comme ils lisent ce chapitre. Et alors, comment expliquer les fossiles? Comment expliquer tout ce qui sert aux autres à signer un âge de millions et de milliards d'années au phénomène en cause? C'est le déluge qui est invoqué. C'est une théorie néo-catastrophiste qui est adoptée. Vous savez qu'au début du 19e siècle, il y a eu bataille entre les gradualistes, représentés par Geoffroy Saint-Hilaire, et les catastrophistes, comme Georges Cuvier, le grand, très grand Georges Cuvier, qui expliquait davantage de ce que l'on trouve par de grandes catastrophes. Alors, il en avait plusieurs, il y avait quand même des temps beaucoup plus considérables que nos créationnistes récents, mais il était catastrophiste plutôt que gradualiste, c'est-à-dire que les choses ne s'expliquaient pas par un processus lent et linéaire, mais par de grands bouleversements. Oui. Ce sont les trois éléments caractéristiques de cette école dite créationniste qui a quelques adeptes en Europe francophone. Il y a des publications, il y a des personnes qui adhèrent à cette interprétation. Pour eux aussi, donc, il y a conflit entre la science officielle, mais ils la dénoncent, et le récit de la Genèse. Que dire à ce propos? Je ne vais pas développer beaucoup, mais je vous livre la conclusion des travaux que j'ai essayé de mener, et je tente de me tenir un peu au courant de l'actualité sans pouvoir l'être entièrement. D'abord, il faut distinguer deux plans, celui des concepts et celui des modalités ou, disons, du contenu des doctrines. Le concept de création que j'ai défini et le concept d'évolution ne se situe pas sur le même plan. Et ceux qui considèrent que parler d'évolution, c'est ipso facto rejeter l'idée de création, je crois, là, font une confusion de catégories. L'évolution concerne une façon dont les espèces vivantes se sont engendrées les unes les autres, et peut-être un premier surgissement de vie pour certains. La notion de création concerne le don de l'être, le rapport asymétrique à ce Dieu au-dessus du monde, duquel le monde dépend entièrement et qui est présent dans ce monde qu'il a créé. La notion de création et la notion d'évolution ne se rencontrent pas, parce qu'elles ne sont pas situées au même plan. Si l'on parle des notions mêmes. Mais maintenant, le contenu des doctrines. Si la Bible nous racontait la création de Dieu telle qu'elle s'est réellement opérée, d'une façon qui était incompatible avec la théorie de l'évolution, alors là, nous aurions un conflit de contenu de doctrine. Est-ce le cas? C'est le cas pour une lecture littéraliste du début de la Genèse. Et cette lecture littéraliste peut faire valoir qu'elle a été, au cours des siècles, majoritaire dans l'Église. Qu'à l'époque où le débat n'était pas ouvert, où il n'y avait pas de pression d'une communauté scientifique quelconque, la plupart des lecteurs ont cru qu'en effet, c'était dans des jours de 24 heures que Dieu avait créé, qu'il avait créé par des actes particuliers, spéciaux, successivement chaque espèce vivante. C'est ce qu'ont cru la plupart de nos grands ancêtres. Cependant, il est intéressant de relever que tous n'ont pas été dans ce cas. Qu'il y a eu, sans du tout l'intention de réconcilier avec une science moderne, bien avant, il y a eu des lecteurs, et non des moindres, qui ont pensé que la lecture de la Bible, sur la base d'indices propres au texte, conduisait à une autre façon d'interpréter. Ça a été le cas de saint Augustin. Saint Augustin, le plus grand de tous les pères de l'Église, celui qu'on peut désigner à la fois comme le père du Moyen-Âge, le père de la Réforme et même le père de la modernité, à cause de la dépendance où se trouve Descartes à son égard. Saint Augustin, parce que lui, il trouvait que 7 jours, c'était trop long, considère qu'il s'agit d'un mode d'exposition, qu'il s'agit d'une présentation en quelque sorte symbolique, mais qu'il ne faut pas prendre les jours comme des jours de 24 heures, pas du tout. Et d'autres, par la suite, dans le fil de l'histoire de l'Église, ont conclu de cette façon, ayant fait le travail pour mon propre compte. Comme l'a dit M. Clémenceau tout à l'heure, j'ai enseigné l'hébreu pendant pas mal d'années. Il n'y avait pas de professeur titulaire d'Ancien Testament dans notre faculté, alors j'enseignais l'hébreu. Et j'ai étudié avec les étudiants ces premiers chapitres de la Genèse de manière répétée. Je suis persuadé que le texte contient de nombreux indices qui éloignent de la lecture littérale, que ce n'est pas l'intention du texte. Que nous nous imaginions qu'il s'agit de jours de 24 heures à prendre en série pour nous raconter le mode d'opération du Créateur. Le texte nous présente principalement un ordre logique et théologique de l'œuvre de Dieu, de telle sorte que son sens peut apparaître, son sens que j'ai très brièvement esquissé tout à l'heure. Et je pense qu'on peut prouver, à l'aide d'un argument que l'on doit à un théologien évangélique américain, Meredith Klein, on peut prouver que l'intention du responsable final de la Genèse, et moi je continue à maintenir que c'est Moïse, il n'y a pas de raison formelle de refuser, il y a aussi des savants juifs dans le même sens. Et donc qu'on peut prouver que le responsable du texte, en associant Genèse 1 et Genèse 2 comme il l'a fait, nous donne un élément incompatible avec une lecture de chronologie littérale pour le début du texte. À partir de ce moment-là, que dire? Eh bien, je crois qu'il faut dire essentiellement que le texte ne nous précise pas le mode d'opération du Seigneur dans sa création et à propos des espèces vivantes. Il nous suggère peut-être, mais il ne le dit pas très carrément, que Dieu a employé deux manières qu'il est intervenu par, de manière spéciale pour la création de l'homme, peut-être le surgissement de la vie, car le verbe créer, bara, est employé seulement à ces moments-là. Et puis, qu'à d'autres moments, il a utilisé des causes secondes, qu'il a, en quelque sorte, conduit un mouvement interne, un mouvement de transformation, car il dit que la terre produise, que les eaux grouillent, ce sont des ordres indirects. Et si un verbe est employé avec Dieu pour sujet, c'est le verbe faire, c'est pas le verbe créer. Donc le texte suggère peut-être, mais il ne le dit pas d'une manière formellement démontrable, que Dieu n'a pas tout créé par une intervention spéciale chaque fois. De toute façon, il laisse donc cette question ouverte. Ma conclusion de croyant, attaché à l'autorité entière de la Bible, je crois que la Bible est inspirée de Dieu de façon pleine et entière, et qu'elle ne contient aucune erreur. Ma conviction de croyant, c'est que la Bible ne veut pas nous renseigner sur le point précis qui concerne le débat avec les évolutionnistes. Donc, assuré dans la foi, écoutant ce que la Bible veut me dire, j'attends de voir, au plan scientifique, quelle thèse va l'emporter, quelle thèse va pouvoir se présenter comme certaine. Alors là, je vous avoue que j'oscille quelque peu quand je lis de très grands évolutionnistes comme Jacques Ruffier, professeur au Collège de France. Je trouve que ça se tient très bien, que c'est vraiment très beau. Quand je lis Denton, je suis ébranlé. Puis quand je lis Michel Delsol, qui a écrit plus de 800 pages, un livre de 800 pages avec des collaborateurs, pour examiner les bases épistémologiques de la théorie de l'évolution et qui répond à Denton, je me dis, après tout, non, peut-être que... Mais oui, je suis serein dans la foi. L'autorité de la Bible n'est pas engagée sur ce point précis, parce que la Bible n'a pas voulu me parler de ça, mais d'autre chose, en me racontant les origines et en me faisant comprendre le sens de la vie humaine par ce récit des origines. Ainsi, prenant ce texte tel qu'il se donne à lire et y adhérant parce qu'il est part de l'ensemble biblique par lequel je connais mon Seigneur, Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je peux attendre avec sérénité que les débats des scientifiques progressent encore. Je vous remercie de votre attention jusqu'à ce point.
Je poserai simplement la question à M. Blocher. Comment comprend-il que le début de la Genèse commence par la deuxième lettre, un bête, et que le verbe soit au singulier et Elohim au pluriel?
En ce qui concerne la lettre initiale, donc et la préposition préfixe bête, de, je n'ai pas de théorie particulière. Il y a eu des commentaires, la tradition juive post-biblique a spéculé sur cette forme, comme la forme du bête, c'est cette forme-là. On a parlé d'une façon d'englober l'ensemble de l'univers, mais je ne suis pas tellement attiré par ce type de spéculation. Bien sûr, la forme de cette lettre est celle de l'hébreu dit carré, qui n'est pas la forme la plus ancienne. Incidemment, n'est-ce pas, notre alphabet dérive de l'alphabet cananéen utilisé aussi par la Bible, donc de l'alphabet hébreu, et donc le bête, c'est bien l'ancêtre de notre B. Et lorsque nous disons B, en fait, nous disons maison, parce que à l'origine, c'est un pictogramme, c'est une maison bâillit à l'état construit bête, qui est le terme hébraïque. Bon, mais je n'ai pas donc davantage de commentaires à faire sur l'usage de cette préposition comme première lettre de la Bible dans le premier verset de la Genèse. En ce qui concerne le verbe et la forme Elohim, qui est une forme du pluriel, alors là je me sens sur un terrain un peu plus solide pour répondre. Elohim est une forme du pluriel, mais comme d'autres mots hébraïques qui ont la forme du pluriel, il est traité comme un singulier de manière régulière dans tout l'Ancien Testament, dans tout le Tanakh, diraient nos amis juifs. La forme du pluriel, comme il peut exister aussi certains mots en français qui n'ont que la forme du pluriel, par exemple, peut suggérer l'abstraction ou l'intensité et ne pas impliquer une pluralité réelle, numérique. C'est aussi le cas pour le mot vie. Le mot vie, couramment, c'est chayim. On traduira la vie, il ne faudra jamais dire les vies quand on traduira le mot chayim dans l'Ancien Testament. Alors, Elohim peut être un mot pluriel employé pour les dieux des païens, mais il est employé comme un mot ayant donc cette forme plurielle pour un sens singulier intense, peut-être avec une nuance d'abstraction, pour le Dieu unique qu'atteste la Bible. Et là, alors, le verbe est au singulier. Bon, il faut reconnaître, 3 ou 4 versets, c'est pas celui, pas le début de la Genèse, c'est pas, qui emploie même des formes de verbes au pluriel. C'est grammaticalement encore possible lorsqu'il s'agit du Dieu unique. Mais là, c'est l'exception. Et dans le premier verset de la Genèse, c'est le singulier selon la règle. Parce que le mot Elohim est pris comme un nom de valeur singulière. Voilà ce que, sur ce point, je répondrai. Oui.
Est-ce qu'il y a dans d'autres religions, comme l'hindouisme ou le bouddhisme, des récits de la création ?
Il y a des récits cosmogoniques, mais pas de création. Et en ce qui concerne l'hindouisme et le bouddhisme, on en est particulièrement loin. Là, on n'a même pas de véritable cosmogonie, en tout cas du côté bouddhique, puisque la sagesse, c'est de comprendre l'inconsistance, l'impermanence de tout ce qui paraît être et qui n'est pas, et que l'essence, c'est le vide. Donc, nous sommes là très très loin des perspectives. Alors, on retrouve la notion de création dans ce qui procède malgré tout de la Bible, le Coran, dans l'islam, qui n'est pas une religion indépendante de la Bible, qui au moins par transmission orale, incorpore des éléments pris à la Bible, alors la notion de création est présente.
Par ailleurs, est-ce qu'il y a l'idée dans la Bible que la création a été achevée en quelque sorte au début, ou est-ce qu'elle est confiée à l'homme et éventuellement l'histoire apparaît comme une suite de la création et...
Cette question est très intéressante et là aussi je suis arrivé à une conclusion assez nette, disons. Il y a des questions qui pour moi restent ouvertes et d'autres qui me semblent bien établies. Je crois que le thème de l'achèvement de la création est présent et important au début de la Genèse. Que c'est la mission du septième jour de nous en assurer. C'est vraiment une insistance du texte et le profit de sens qu'il nous faut y trouver, c'est que c'est ainsi que l'histoire peut vraiment se dérouler en pleine responsabilité pour l'homme. Avec une création qui continue, avec du nouveau qui éclate à n'importe quel moment, ça reste de l'imprévisible. c'est si l'œuvre est achevée avec des lois, c'est-à-dire des régularités, pas des lois qui existent par elles-mêmes, mais des régularités instituées par le Créateur, alors l'homme peut planifier son action. Il est vraiment responsable des effets qu'auront ses actes. C'est l'achèvement de la création qui donne une scène à l'histoire. Et cela n'est pas souvent perçu. Je ne suis pas le premier à l'avoir vu. Mais, donc, c'est un thème qui, je crois, est important. Mais, j'ajoute deux choses immédiatement, ça ne veut pas dire que Dieu se retire alors s'il cesse de créer. Cela ne veut pas dire qu'il devient le Dieu oisif que le déisme a imaginé. Comme on l'a dit aussi, maintenir la création dans son être, à tout moment, réclame autant de puissance créatrice que de la faire surgir au commencement. C'est un Dieu actif qui maintient, par exemple, l'opération de ses régularités du cosmos, qui donne à tout le souffle. Il y a un rôle cosmique du Saint-Esprit, qui n'est pas le rôle pour le salut, mais de maintien dans l'existence. Le psaume 104, à la fin du psaume 104, il y a un verset très net pour le dire. Si tu retires ton souffle, ils s'évanouissent dans le néant. Et donc il y a cette vérité-là, qu'il ne faut surtout pas oublier, d'une action de Dieu présent dans sa création, qui la maintient et qui y donne librement des signes, comme ces miracles par exemple. Et puis d'autre part, alors, il y a la nouvelle création qu'il entame pour restaurer et dépasser sa création première après les effets de cette rébellion humaine dont nous parlions il y a quelques instants. Le thème biblique de la nouvelle création est très important et c'est lui qui est en cause au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Là, il est dit que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement, qu'elle gémit en attendant la rédemption, la libération de la glorieuse des fils de Dieu. Alors certains ont pris ces versets comme indicatif que la création n'était pas achevée. Mais c'est une erreur, c'est de la nouvelle création qu'il s'agit. La nouvelle création qui est une recréation de la première création gâtée, abîmée par le péché. La première création est corrompue. Dieu commence une œuvre de nouvelle création à partir de la résurrection de Jésus-Christ. Et cette nouvelle création, donc, est un travail en cours qui implique pour tout l'univers comme gémissement et douleur, de telle sorte qu'il y a une espérance du cosmos qui se tend vers la fin de l'histoire qui nous est promise.
Appeler la création continuée.
Alors, Descartes parlait de création continuée. Je pense que son souci premier était de marquer qu'il ne faut pas moins de puissance divine à tout instant pour maintenir le monde que pour le faire surgir au premier des instants. Je crois que c'était sa pensée première. En même temps, je pense la formule quand même un peu dangereuse par rapport à l'accent sur l'achèvement que j'ai voulu faire entendre. Qu'il y a une tendance à une sorte de mécanisation, on pourrait dire, de mathématisation indue du temps créationnel dans cette vision.